Vous écoutez le Libre Journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Isabelle Prêtre, émission préenregistrée le 22 juillet 2020, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 13 septembre de midi à 13h30 et réalisée par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler et terminer de parler de Saint-Augustin. Si j'ai le temps, je vous parlerai ensuite de Sainte-Claire d'Assise. Bon, je dédie mon émission à Marie-Madeleine et à Jean-Rénal de mon frère, parce qu'aujourd'hui, jour de l'enregistrement, c'est la fête de Marie-Madeleine. Et nous étions allés tous les deux, il y a quelques années, lui fêter sa fête à Vézelay. Voilà, je demande à mon frère de l'embrasser pour nous deux. Et maintenant, je reprends. Donc, Saint-Augustin, nous en étions restés à la théologie de Saint-Augustin, et j'avais commencé à vous parler du prêtre, de l'importance qu'il donnait au prêtre. Et nous en étions restés à l'obligation pour un prêtre d'annoncer l'Évangile, de ne jamais se taire. Je vous lis sa phrase. « Si je venais à me taire, je serais dans un grand danger, bien mieux, dans un véritable périple de mort. » Je ferme les guillemets. Oui, c'est vrai, le prêtre doit parler, annoncer l'Évangile, quoi qu'il puisse advenir. Et l'on se souvient de Jésus, disant que si ses disciples se taisaient, les pierres se mettraient à crier. Alors, il est curieux à l'heure actuelle, vous l'avez remarqué, de ne pas entendre davantage les cris des pierres. Car hélas, trop de prêtres, par courtoisie pour les athées, les agnostiques ou les autres religions, par lâcheté aussi quelquefois, se taisent. Ils n'osent plus parler des merveilles de Dieu. Et quand ils sont invités quelque part, comme à la télévision, où leur parole est primordiale, je me demande ce que doit penser et le Christ et saint Paul face à leur stupéfiant silence. Bon, donc, flamme et courage sont bien les deux messages que le grand saint Augustin envoie toujours à ses prêtres. D'autre part, et c'est important aussi, il s'est ôté aux prêtres la terrible responsabilité d'un pasteur de troupeaux divins. Car si la responsabilité du prêtre est immense, il ne doit pas perdre l'une des brebis que Dieu lui a confiées, elle n'est pas sans limite. Les hommes, donc les paroissiens, ont tous leur liberté. Et si la parole ne parvient pas jusqu'à eux, il n'y peut rien. Car seul le Christ instruit les cœurs. Et saint Augustin le dit dans son commentaire de la première épître de saint Jean. Je vous le lis, j'ouvre les guillemets. « Il y a là, mes frères, un grand mystère à méditer. Le son de mes paroles frappe à vos oreilles, le maître est au-dedans. N'allez pas croire qu'on apprenne quelque chose d'un autre homme. Nous pouvons attirer votre attention par le bruit de notre voix. Si au-dedans n'est pas celui qui instruit, vain est le bruit de nos paroles. » Je ferme les guillemets. Il continue ainsi. Jour, guillemets. En voulez-vous une preuve, frère? N'avez-vous pas tous entendu ce sermon? Combien sortiront d'ici sans avoir rien appris? Les enseignements extérieurs sont une aide, une invitation à faire attention. C'est au ciel qu'est la chair de celui qui instruit les cœurs. Que le Christ soit dans ton cœur. Je ferme les guillemets. Bon, la chair, vous avez compris, hein, C-H-A-I-R-E. Là encore, les paroles d'Augustin sont importantes pour les prêtres. Leur charge sacrée est si grande que certains parmi eux se découragent ou se désespèrent. Et d'ailleurs, je vous fais une confidence, j'aime tant les prêtres, qui sont pour moi la preuve même de l'existence du Christ, j'ai écrit un jour pour leur faire un hymne et pour les secouer aussi en même temps. Un livre qui s'appelle « Lettre ouverte aux prêtres et aux séminaristes ». Bon, alors ils se sentent souvent impuissants, c'est vrai, face au vide qui leur fait face et au peu d'écho de leurs paroles. Il ne faut pas, leur dit saint Augustin, ils font ce qu'ils devaient faire. Le reste ne dépend plus d'eux. Alors l'amour des hommes qu'avait le prêtre Augustin doit aller jusque-là, jusqu'à cette parole sublime qu'il a émise un jour. Cette parole, vous la trouvez dans le sermon 17. « Je ne veux pas être sauvé sans vous. » Maintenant, puisque nous sommes toujours dans le chapitre théologie, l'importance de l'Évangile. Tous les saints, vous me direz, ont fréquenté avec passion l'Évangile. Ils en savaient même par cœur les principales phrases. Ils le méditaient, ils pensaient sans cesse, ils le respiraient comme un parfum merveilleux. Et il en est toujours ainsi, parce que les saints n'ont pas quitté le monde. En revanche, combien de chrétiens n'ont même pas eu la curiosité de lire ce livre sacré? Ils n'en connaissent que les phrases proférées par le prêtre lors des homélies. Et ils ignorent ainsi à côté de quoi ils passent. J'ouvre les guillemets. C'est pourquoi écoutons l'Évangile comme si le Seigneur était présent et ne disons pas « Heureux ceux qui ont pu le voir, car beaucoup parmi ceux qui l'ont vu l'ont également mis à mort, tandis que parmi nous qui ne l'avons pas vu, beaucoup aussi ont cru en lui. » Car les précieux événements qui sortaient de la bouche du Seigneur, c'est pour nous qu'ils ont été écrits, pour nous qu'ils ont été conservés, pour nous qu'ils ont été proclamés. Le Seigneur est dans les hauteurs, mais le Seigneur se tient également ici. C'est dans le dernier paragraphe, c'est dans les homélies sur l'Évangile de Jean. Voilà. Alors, ceux qui pensent à la chance de ceux qui l'ont rencontré et se sont aussitôt convertis se trompent lourdement. Il n'était pas facile, il n'était pas plus facile, et c'est vrai ce que dit saint Augustin, de deviner Dieu dans un homme qu'il ne l'est aujourd'hui, de croire en sa divinité. J'ajouterais même, nous savons qui est Dieu, parce que la résurrection a eu lieu, et l'ascension. Mais ceux qu'ils rencontraient, eux, ne pouvaient pas savoir. Voilà pourquoi peut-être, il a dit à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent. Maintenant, nous allons parler des intuitions grandioses de saint Augustin. Elles furent nombreuses, vous savez, mais ici, nous n'en citerons que deux. La première, mon poids c'est l'amour. Mon poids c'est l'amour, entre guillemets. Car là, tout est résumé. Vous m'entendez? Tout. L'amour seul, qu'il soit divin ou qu'il soit humain, fait toujours pencher la balance. Et c'est bien l'amour qui toujours nous entraîne au don, à la vie, au bonheur ou au désespoir. Oui, l'amour entraîne comme malgré soi. Et le choix de Dieu par saint Augustin a été, malgré les pleurs et ses immenses renoncements au monde, fait aussi comme malgré soi, parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Mais il y a deux autres manières de voir les choses, et il se peut qu'elles aient été les siennes. Le poids de la stabilité, c'est-à-dire celui qui retient un homme dans l'équilibre, car il pourrait facilement sombrer, pris qu'il est entre deux tourbillons, celui du monde et celui de l'infini, ou celui de sa tentation vers le bien et de sa tentation vers le gouffre. Bref, dans ce combat de la lumière et des ténèbres, le poids de l'amour est le poids d'appui. Et puis il y a le poids de la croix. J'ai parlé du poids de la stabilité, mais il y a aussi le poids de la croix. Car quoi qu'on en dise, l'amour, le merveilleux amour, sur cette terre, fait beaucoup souffrir. On ne peut pas aimer sans souffrir ici-bas. Et Augustin, qui a tant aimé, et Dieu et les hommes, sait de quoi il parle quand il parle du poids de l'amour. J'ouvre les guillemets pour vous citer des phrases de lui qu'il a écrites dans la Cité de Dieu. C'est splendide. Car tel on aime, tel on est. Tu aimes la terre, tu seras terre. Tu aimes Dieu, que dirais-je? Seras-tu Dieu? Je n'oserais pas le dire de moi-même. Écoutons les Écritures. Il ouvre les guillemets. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Voilà ce qu'il a écrit dans la Cité de Dieu. Alors c'est magnifique, c'est digne d'un philosophe de l'envergure de Nietzsche. Un philosophe qui vit lui-même sur les hauteurs. C'est proche aussi, vous le voyez bien, de la phrase de Jésus. là où est ton cœur, sera aussi ton trésor. La liberté étant laissée aux hommes, les hommes auront en effet ce qu'ils désirent le plus. Mais l'enjeu est grand. Il y va du bonheur et de l'éternité. Et Augustin a raison, par cette phrase terriblement belle et provocante, de nous demander un peu de réfléchir sur ce qu'on aime et sur ce que l'on veut. Maintenant, alors là, nous abordons un chapitre un peu paradoxal. Enfin, il fallait le dire, je vous ai dit que je vous en parlerai. Erreur, faute et excuse de saint Augustin. Oui, il faut bien mettre dans le chapitre théologie cette parenthèse nécessaire. Car il ne s'agit pas pour moi de faire le panégyrique de ce saint, mais de montrer tout simplement ce qu'il apporte encore au monde aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Comme il est évident qu'un génie peut parfois se reposer de son intelligence, comme il est évident que la fougue peut parfois conduire trop loin un homme et lui faire aborder, sans qu'il le veuille, la frontière du mal, comme il est évident que la lumière ici-bas n'existe jamais sans ombre. Qu'en est-il pour saint Augustin concernant le procès que certains lui font encore aujourd'hui? Alors, je vais vous dire, il a été aimé de Montaigne, de Malebranche, de Pascal, de Fénelon, de Chateaubriand et de tant d'autres grands esprits. Calvin, Luther et d'autres créateurs de religion se sont inspirés de lui. Thérèse d'Avila a eu un choc amoureux, elle l'a dit, elle l'a écrit en lisant les Confessions. Kierkegaard, en revanche, l'accuse dans son journal. Il écrit « Saint Augustin, il a vraiment fait un mal incalculable ». Mais le philosophe allemand, je vous l'ai dit, s'en prenait surtout à ses thèses intellectuelles, hein, tel le thème de la foi et de la raison. Bon. Alors pourquoi l'Occident, si inspiré par lui, l'a-t-il parfois traité d'esprit maléfique? En quoi a-t-il exagéré? Quels sont les reproches que nous pouvons lui faire? Alors, on commence par la doctrine du péché originel. Augustin l'a puisé sans doute dans le premier péché, celui d'Adam et Ève. Mais nous savons maintenant qu'il a surtout trouvé en lui. Nous sommes nés, semble-t-il dire, marqués par le mal, et nous n'y pouvons rien. Alors les conséquences de cette thèse sont terribles, c'est vrai, parce que la culpabilité, en même temps que le péché est en nous, et aussi pour une autre raison, nous passons notre vie à nous dédoubler, à engager une lutte entre nous et nous. Notre meilleure part, la céleste, devons lutter comme un forçat, contre la mauvaise part, celle du péché. Alors oui, on peut lui reprocher la doctrine du péché originel. Le dénigrement de la vie terrestre. Alors Augustin n'a pas fait seulement un appel aux religieux, mais à tous les hommes, leur demandant de fuir le monde avec ses joies mondaines et de ne pas succomber à la tentation de la chair. Mais faisant cela, et exagérant, il a rendu la vie terrestre mauvaise et empêche le bonheur qu'il veut pourtant pour nous. Comme saint Paul, dont il s'inspire beaucoup. Il est terrible, parce qu'après lui, il devient difficile de goûter sans remords au plaisir de la terre et du corps. On peut se demander, et je me le suis toujours demandé, pourquoi Dieu nous aurait créé ainsi, proie de toutes les tentations psychiques et charnelles, s'il nous avait voulu autrement. Et alors, on pourrait presque rejoindre Nietzsche, révolté contre le christianisme, voyant ce dernier, contre l'antithèse de la vie, comme l'antithèse de la vie, pardon. Ce qui, bien sûr, serait faux, puisque le Christ, le christianisme, c'est le Christ, et que le Christ est la vie, avec un V majuscule. De plus, souvenez-vous, Jésus a toujours voulu pour nous la vie en abondance. Il n'a jamais parlé de péché originel, ni de la lutte que nous devions mener contre nous-mêmes. Jamais. Alors la prédestie, j'arrive jamais à le dire, prédestination. Augustin était contre le moine Pélage, qui disait que le salut serait offert à tous les hommes. Il était entré dans ce débat avec sa théorie de la liberté et de la grâce. L'homme a la liberté, mais ne parvient à rien sans le secours de la grâce. En fait, il y a les élus et les damnés. On a vu dans la liberté chez saint Augustin que c'est pas tout à fait ainsi que les choses se sont passées quand même. Maintenant, l'importance du baptême. L'importance du baptême, écoutez bien, mais vous le savez, était telle qu'un bébé qui n'avait pas été baptisé ne pouvait entrer au paradis. Alors je crois personnellement que c'est la plus grave des choses qu'Augustin ait jamais dites. Grâce à Dieu, l'Église n'a pas tenu compte, enfin, n'a plus tenu compte de cette idée folle. Mais il faut pour dire cela oublier le temps, pas si éloigné, ou sans doute inspiré par l'évêque d'Hippone. Elle affirmait que les limbes étaient le ciel des enfants non baptisés. Et nul n'a jamais su à quoi ressemblaient ces limbes inventées par elle. Une sorte de ciel, mais qui n'était pas le ciel. Comme si les enfants avaient été responsables du fait que les parents les aient fait baptiser ou pas. Et comme si les parents chrétiens l'étaient aussi, quand un enfant s'en allait subitement, avant qu'il n'ait eu le temps de l'être. L'Église n'avait pas entendu Jésus dire « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et sous l'influence, peut-être, d'Augustin, elle leur a fait couler bien des larmes. Maintenant, le pouvoir de la violence. Voilà encore un autre reproche qu'on peut faire à saint Augustin. On a dit que saint Augustin avait été à l'origine de l'Inquisition. C'est vrai quelque part, parce qu'il apprenait, il faut le reconnaître, la violence, quand la persuasion ne suffisait pas pour faire entrer dans l'Église catholique tous ceux qui voulaient rester en dehors. C'est au nom de Dieu qu'il voulait imposer Dieu, même par les armes. Il disait d'ailleurs que les verges étaient aussi une forme de charité. On devait forcer les autres au salut. Et hors de l'Église, aucun salut ne pouvait exister. De toute façon, Augustin fut un soldat de l'âme, un grand combattant, contre lui-même, contre les hérétiques et contre tous les barbares. On lui reprochait aussi autre chose. L'Église assimilée au Christ. Alors l'assimilation de l'Église au Christ est une autre erreur qui, hélas, nous poursuit encore aujourd'hui. Autant l'Église vient du Christ, autant on ne peut s'en trahir celui-ci, ne pas faire la distinction entre les deux. Eh bien, Augustin ne la fait pas. Il écrit « Je parle avec la voix de l'Église ». Et il le disait toujours dans ses sermons. Et pour lui, c'était la voix de Dieu. Il a écrit dans un sermon, j'ouvre les guillemets, hors de l'Église catholique, « On peut tout avoir, sauf le salut ». Je ferme les guillemets. Je les ouvre à nouveau. Si quelqu'un est séparé du corps du Christ, il n'est pas membre du Christ, proclamait-il toujours. Alors il traite d'hérétiques tous ceux qui pourtant croient au Christ, venus selon la chair dans ce monde, simplement parce qu'ils ne font pas partie de l'Église catholique. Et vous savez qu'il va aller jusqu'à contredire même saint Jean à ce sujet. Il faut lire son commentaire de la première épître de saint Jean pour s'en convaincre. Saint Jean disait, bon, je résume. Saint Jean disait, mais Augustin dans ce passage l'a développé, que tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Voilà, Saint Jean disait cela. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Non, dit saint Augustin, tel n'est pas le cas. Et il cite quelques exemples. Les donatistes, les ariens et d'autres encore confessent que Jésus-Christ est venu dans la chair. Mais ils ne sont pas de Dieu, car ils ne font pas partie d'Église catholique. Il va beaucoup plus loin encore, il les traite d'antichrist. Oui, c'est ainsi qu'Augustin ose les appeler. Et ce n'est pas en son honneur, car cette vision est lointaine de celle de Jésus et de son disciple préféré, saint Jean. Voilà pourquoi il discernait une persécution juste, c'est-à-dire celle qui faisait de force entrer les traîtres dans l'Église, et une persécution injuste, accomplie, elle, par ceux qui persécutaient l'Église catholique. Bon, mis à part le fait qu'il n'a jamais souhaité la persécution contre les païens, les juifs, il a fait preuve, c'est vrai, d'une exagération incroyable en ce qui concerne l'obligation pour tous les chrétiens de faire partie de l'Église catholique. Autre chose qu'on lui a reproché, d'avoir dit « il est mort pour nos péchés ». Alors que la mort d'un Dieu qui nous a tant aimés soit de notre faute, est pour beaucoup inadmissible. Parce que soit nous nous en moquons, car nous ne lui avons rien demandé, et nous sommes des misérables, soit nous croyons qu'il en est ainsi, et nous mourrons de honte, de peine et de remords. Malheureusement, vous le voyez bien, l'idée augustinienne, déjà divulguée par saint Paul, car elle avait été divulguée par saint Paul, elle est restée. Alors, personnellement, je crois que Jésus-Christ n'est pas mort pour nos péchés, mais qu'il est mort pour nous montrer que la mort était le passage premier de la résurrection et le passeport tout simplement d'une autre vie. Je crois qu'il est mort aussi parce que nous devons mourir et qu'il a voulu y passer avant nous, pour nous, afin de nous ôter à jamais toute peur. Je crois que le Christ ne nous a pas seulement sauvés du mystérieux péché, mais du désespoir. Et je crois, pour tout vous dire, qu'un jour il m'en a donné l'intuition. Je ne veux pas dire que le péché n'existe pas, bien sûr qu'il existe. Mais on ne peut pas le définir comme saint Paul ou comme saint Augustin. Il y a bien un mystère. Il y a bien un mystère que nous connaîtrons, dont nous connaîtrons la réponse au ciel sans doute. Pour le moment, nous ne pouvons rien dire. Il y a bien eu une lutte entre le bien et le mal, entre le soleil qui a jugé Jésus-Christ et les ténèbres. Il y a bien eu un grand mystère. Mais nous ne pouvons pas être responsables de cela. C'est vrai, nous n'avons pas demandé de venir sur Terre, et ce n'est pas nous qui nous sommes créés nous-mêmes. Donc là, je suis avec toutes les personnes qui sont à ce niveau-là contre saint Augustin. Maintenant, des excuses. On va passer aux excuses. Alors, les excuses, Augustin en a. Quant aux excuses que l'on peut trouver à saint Augustin, elles sont même nombreuses. Mais elles se résument à celle-ci. La première. Il était de son temps. Un temps où l'Église voulait dominer l'État. Un temps où Dieu était considéré comme un juge terrible. Et comme le raconte Peter Brune dans la vie de saint Augustin, on insistait alors sur l'unité de l'Église, les tentations, la conduite des chrétiens, le jugement dernier. Et Augustin était obsédé, vous m'entendez, obsédé par la mort et le jugement dernier. Alors l'intransigeance, la sévérité, faisaient alors partie de la charité. Il était prêt à se battre pour faire rentrer dans l'ordre les hommes et les sauver. Il a écrit, j'ouvre les guillemets, « Ne te figure pas que tu aimes ton serviteur quand tu ne le frappes pas, que tu aimes ton fils quand tu ne le châties pas, que tu aimes ton voisin quand tu ne le reprends pas. Ce n'est pas la charité métier d'heure. » Je ferme les guillemets. Il a écrit dans son commentaire de la première épître de saint Jean. Jugez avec notre regard contemporain les hommes de ce siècle est donc impossible, car les mentalités sont différentes. Aujourd'hui, par amour, on refuse toute sévérité et toute correction. Le résultat est autre, mais enfin, on peut dire en souriant qu'en certains domaines, il n'est pas meilleur. Hein. Bon, autre chose, on a souvent falsifié ses propos. Par exemple, il a bien parlé de la prédestination. Eh bien, elle n'était pas, pour Augustin, ce que ses successeurs en ont fait. Dieu sait tout, et la préscience divine existe. Mais l'homme, pour Augustin, reste libre jusqu'à la fin. Il peut à tout moment choisir le Christ et se préparer à faire partie des élus. L'abbé de Saint-Cyran, à Port-Royal, janséniste, a trahi la pensée d'Augustin. Et c'est ainsi qu'il l'a propagé. Pour lui, et pour les jansénistes, seule la grâce de Dieu comptait. Et le nombre des élus et des damnés était déjà de Dieu connu. Terrible, terrible cette théorie de prédestination. Eh bien, il n'en est rien pour Augustin, qui laisse à tout homme la porte ouverte. Alors, à tout moment, ce dernier peut choisir la lumière et l'éternité. À tout moment. Il peut choisir la lumière et l'éternité. Rien n'est joué d'avance. Et si l'on a tant parlé de la liberté de la grâce chez Augustin, si on l'accusait d'avoir mis l'accent exclusivement sur la première, c'est parce que l'on a fait une théorie générale et théologique de ce qui était seulement le fruit de son expérience personnelle. Oui, il est dangereux de trop parler, de trop se confier, même pour les saints, car les mauvaises interprétations arrivent toujours. Pour lui, en effet, la grâce de Dieu était primordiale. Sans elle, il n'aurait pu changer de vie et de chemin. Mais nous le savons aussi, il était libre de ne pas le faire. Or, il cherchait librement la voie du bonheur et de la vérité. Alors la grâce l'a aidé pour surmonter son caractère, ses ambitions, son tempérament. Et maintenant, toujours dans les excuses, parlons du péché originel. Alors, je vais vous dire, c'est comme les convoitises dont il a tant parlé. Les convoitises, et dont il a tant parlé, eh bien, il les connaissait pour les avoir vécues. Si Augustin n'avait découvert en lui sa soif de transgression, vous souvenez, le plaisir du vol pour le vol, son goût pour tous les plaisirs, et pour une certaine forme de superficialité, sa fascination pour les femmes, et sa fin charnelle due à son tempérament, eh bien, il n'aurait sans doute jamais eu l'idée de parler de péché originel. Il a donc mentionné cette attirance qui était en lui pour les choses de ce monde, et il en a conclu qu'il était, comme tous les hommes, marqué par le mal. Mais d'autres intellectuels ont été plus loin que lui dans la problématique du péché, et se sont appuyés sur lui, sur ses dires, pour en faire la théorie du péché originel. Un péché, je le redis, dont Jésus n'a jamais parlé. Bon, autre raison aussi, il était malgré lui, quelque part, resté manichéen. C'est-à-dire la pureté d'un côté, l'impureté de l'autre. Dieu d'un côté, Satan de l'autre. Le monde et ses jouissances, le ciel et ses joies. Il fallait choisir. Aucun mélange ne devait exister. Oui, il était quelque part manichéen. Et puis, il était surtout un converti, terrible, comme tous les convertis, dur envers lui-même et envers les autres, car il ne se pardonnait pas le mal passé accompli. Il devait payer, et le changement devait être radical. On ne peut jamais chercher des demi-mesures, vous savez, l'indulgence d'une pure Thérèse de Lisieux chez les convertis. Un converti passe du tout au rien, avec la vitesse et la facilité de l'éclair. On pourrait croire, c'est vrai, on pourrait croire, que les convertis ont en eux une incommensurable miséricorde et une compréhension à toute épreuve, qui serait due justement à leur expérience. Eh bien, il n'en est rien. Ils ne permettent plus rien à autrui, car ils ne se permettent plus rien à eux-mêmes. Et ils reviennent à leurs yeux de trop loin. Et quand une Thérèse Martin nous dit que si elle avait commis tous les péchés du monde, elle avancerait vers Jésus avec la même confiance, un saint comme Augustin, et d'ailleurs c'est saint Augustin, ne s'en remet pas d'avoir volé les poires. Vous savez, enfin vous le savez, je vous dis vous le savez, c'est un tic. Bon, les saints sont des hommes d'abord, et la psychologie joue partout, même en ce qui les concerne. Et la chose sublime dans les excuses, chose sublime et immensément rare, saint Augustin n'a jamais pensé détenir la vérité. C'est à son honneur. Et la chose, chez un si grand esprit, chez un si grand intellectuel, est assez rare pour le remarquer. Son humilité était immense. Il a écrit dans une lettre à Jérôme, j'ouvre les guillemets, « Je n'ai ni ne pourrai jamais posséder une science des Écritures divines comparable à celle que je reconnais en toi. » Je ferme les guillemets. Et il est vrai que ce génie de la pensée s'est trompé sur bien des points, parce qu'il a lu la Bible d'une manière littérale, malgré les lumineuses explications de l'évêque de Milan, Ambroise, dont il a parlé, mais il a continué à se tromper. Mais il est vrai qu'on lit avec son âme et que l'âme d'Augustin était torturée. L'amour de Dieu et la peur, une peur immense, se sont liés en lui pour produire quelques erreurs. L'antise de se tromper aura pourtant été dans son cœur, du début à la fin. Il était si conscient de sa responsabilité par rapport à Dieu, par rapport aux hommes, si conscient. Il proclamait souvent, et c'est dans ses écrits, que tout le bien qu'il faisait par ses paroles lui venait de Dieu, et que le mal, toujours possible, ne venait que de lui. Il savait, oui, il savait, que sa vie sur terre allait bientôt se terminer. Alors, vous savez ce qu'il a fait ? Il a relu toute son œuvre et il a écrit les rétractions. Les rétractations. Un livre où il se renia lui-même sur certains points, car sa pensée avait évolué avec son âme. Un livre où il rectifiait bien des choses, ou tamisait certains autres propos. Il écrit, j'ouvre les guillemets, si Dieu m'accorde ce que je lui demande, je vais rassembler et montrer dans un écrit composé spécialement pour cela ce qui, avec raison, me déplaît dans mes ouvrages. Alors, les hommes verront bien que je suis loin d'être un juge trop indulgent pour mon propre cas. Pour moi, je l'avoue, j'essaie d'être au nombre de ceux qui écrivent en progressant et qui progressent en écrivant. Cet écrit est rapporté par Peter Brune dans la vie de Saint-Augustin. Alors il est vieux désormais, et il a peur, il a très peur de ce que peuvent engendrer les paroles. Et il le dit dès le début dans les rétractations. Dans le prologue, il écrit, j'ouvre les guillemets, en multipliant les paroles, tu n'échapperas pas au péché. Cette parole de l'écriture me glace d'effroi. Non parce que j'ai beaucoup écrit, loin de moi de regarder comme excès de paroles les discours imposés par la nécessité, quelle que soit leur multitude et leur prolixité, mais je redoute ce jugement de l'écriture sainte, parce que dans cette quantité d'ouvrages que j'ai écrits, on peut sans aucun doute extraire bien des passages qui, s'ils ne sont pas faux, peuvent assurément être accusés ou même convaincus d'inutilité. Je ferme les guillemets. Dans ce même livre, qui a été aussi appelé Révision, il passe en revue tous ses écrits. Et il le dit encore dans le prologue, il désire les revoir, j'ouvre les guillemets, avec la rigueur d'un juge, censurant dans tout cela ce qui me choque. Je ferme les guillemets. Alors, nous sommes en droit de penser qu'avec un tel esprit d'humilité et d'autocritique, Augustin aurait sans doute affiné encore certaines de ses théories, comme celle sur la liberté et la grâce, afin que les hommes ne commettent plus d'erreurs dans leur interprétation. Il est très rare, de voir un tel penseur se remettre ainsi en question à la fin de sa vie. Alors bien sûr, son caractère restera le même jusqu'à la fin. Jusqu'à sa mort, son caractère est resté le même. Cette mort qu'il emporta après qu'il ait récité les psaumes de pénitence, placardés devant son lit, et il les récitait en pleurant. Pécheur, il avait été. Pécheur, il le resta pour lui à ses yeux jusqu'au bout. Ce fut son humilité, mais malheureusement aussi sa torture. Bon, cet être de flamme adorait Dieu, mais il n'aura jamais été serein, car il avait été trop marqué par la religion d'un siècle qui, hélas, engendrait la terreur dans les cœurs. Pour clore ce chapitre, à une époque où le seul espoir des athées est la poussière, et où certains chrétiens doutent encore de l'éternité, je ne résiste pas à mettre ici la sublime prière du mort à celui qui reste ici-bas. Prière écrite par Augustin, et qui, tout en prouvant la profondeur de sa foi et de son amour pour le Fils de Dieu, peut consoler les hommes plus que n'importe quelle homélie. Elle console d'ailleurs ma mère chaque soir. Je vais vous la lire. Pardon. Ne pleure plus si tu m'aimes, si tu savais le don de Dieu et ce qu'est le ciel. Si un instant, tu pouvais contempler comme moi la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent. Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens, comme elle a brisé ce qui m'enchaînait, et quand un jour que Dieu seul connaît qu'il a fixé, ton âme viendra dans le ciel où l'a précédé la mienne, ce jour-là, tu reverras celui qui t'aimait et qui t'aime plus encore. Tu me reverras donc, transfiguré dans l'extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant d'instant en instant avec toi dans les sentiers nouveaux de la lumière et de la vie. Essuie tes larmes et ne pleure plus, si tu m'aimes. Nous allons passer maintenant à la psychologie de Saint-Augustin, je veux dire, voir ce qu'il nous apporte, sur le plan de la psychologie et ce qu'il apporte à notre monde. C'est cela ce dont je veux parler. Alors, Augustin, disons-le, a une psychologie intuitive, mais aussi une psychologie qui est liée à son expérience des êtres humains. Et sa psychologie a souvent un très haut niveau d'acuité. Elle aborde les domaines et les sujets qui nous intéressent toujours et particulièrement. Alors, la charité. La charité fait des égaux. Dans une page admirable de son commentaire de la première épître de Saint Jean, et dans une logique implacable, il explique comment la vraie charité, loin de se pencher sans cesse sur celui qu'elle juge inférieur, fait tout pour qu'il soit à son niveau. J'ouvre les guillemets, parce que ce passage est très important. J'ouvre les guillemets. Tant qu'il est en retard, il est à ton école. Tant qu'il est ignorant, il a besoin de toi. Toi, tu sembles le maître, lui le disciple. Tu lui es donc supérieur, puisque tu es son maître. Lui, t'es inférieur, puisqu'il est ton disciple. Si tu ne veux pas l'avoir pour égal, c'est que tu veux toujours l'avoir pour disciple. Or, si tu veux toujours l'avoir pour disciple, tu seras un maître envieux. Si tu es un maître envieux, comment seras-tu un maître? Et il rappelle la parole de saint Paul, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. » Alors écoutons-le et reconnaissons que son conseil est précieux. Nous avons trop tendance, je sais, je l'ai déjà dit, mais je ne m'en lasse pas, en notre siècle, à privilégier l'égalité par le bas et à nous donner aux œuvres de solidarité en nous croyant d'une belle humanité. Mais l'aide supérieure, et peu importe le domaine, doit penser à élever l'autre afin qu'il n'ait plus besoin de personne. Sur le plan personnel et social, l'abbé Pierre l'avait compris, lui qui ne s'est jamais penché sur les misérables avec commisération, mais qui leur a rendu la dignité et la grandeur de l'homme. Vous vous souvenez, hein, quand il a vu un malheureux qui lui demandait de l'aide, c'est lui qui lui a dit « Viens m'aider ». Et l'autre s'en est sorti. Sur le plan étatique, il n'en est pas de même. On paterne, on infantilise, on fait des subalternes, au lieu d'offrir aux hommes la possibilité de s'élever. Un jour, il faut bien cesser de donner du pain et permettre aux hommes de l'acheter ou de le fabriquer. Le vrai maître veut un égal et se réjouit même d'être dépassé. Bon, enfin, l'orgueil insensé de celui qui veut rester supérieur est ce qu'il appelle un excès d'avarice. Eh bien, qui penserait, à part Augustin, avoir dans l'orgueil l'avarice? Et pourtant, c'est si vrai. On peut être avare de soi-même, vouloir jalousement garder ses dons et sa supériorité. Il a mis en lumière le critère de la charité. Le critère de la charité, ou comment discerner de l'orgueil. Oui, là c'est une surprise. C'est une surprise. Il parle bien de l'orgueil dans la charité. Alors il écrit, dans le même livre, « Les œuvres ne permettent pas de faire le discernement ». Je ferme les guillemets. Pourquoi? Bien parce que les bonnes œuvres, l'orgueilleux comme le charitable peut toutes les accomplir. J'ouvre les guillemets. La charité nourrit, l'orgueil aussi. La charité exerce hospitalité, l'orgueil aussi exerce hospitalité. La miséricorde intercède pour le pauvre, l'orgueil aussi intercède. Je ferme les guillemets. Et Augustin continue ainsi, proclamant que l'orgueilleux peut aller lui aussi jusqu'au martyr. Et il écrit « Voyez quelle grande chose fait l'orgueil !» Il les énumère, vêtir les hommes, jeûner, etc. Bref, Elle ressemble presque à s'y méprendre, à celle que fait la charité. Cette phrase est de lui. On ne peut donc pas juger la charité par les actes. Pourquoi ? Parce que la charité est intérieure. C'est l'intention qui compte. Le cœur. Les uns recherchent, dit-il, la gloire de Dieu, mais les autres recherchent leur propre gloire. Et il ajoute, en psychologue, autant qu'en théologien, malheur à l'homme qui a pour cocher l'orgueil, il va nécessairement à l'abîme. Augustin ne ment pas. Tous les grands orgueilleux finissent mal, d'une manière ou d'une autre. Mais le fait qu'il ait vu avant Nietzsche, qui était capable d'être psychologue quand il ne s'agissait pas de lui. D'ailleurs, Nietzsche s'appelait lui-même le psychologue. La volonté de puissance cachée derrière les apparences de la charité est primordiale. Hein ? Un saint parle, mais aussi, je le redis sans me lasser, une grande intelligence. Si l'amour, si la bienveillance n'est pas dans l'âme de celui qui accomplit les œuvres de charité, eh bien cette dernière n'est rien, ou peut même être un péché. Oui, il a raison, il est inutile de glorifier tous ceux qui font le bien. Certains parmi eux sont atteints, même sans le savoir, de la volonté de puissance. Exerçant le bien, ils épuisent un sentiment de supériorité. La charité existe, mais elle existera encore au ciel. Elle s'appelle l'amour. Alors qu'au ciel, les heures de miséricorde n'existeront plus, puisque chacun sera heureux. Augustin le dit, j'ouvre les guillemets, « Nous ne devons pas en effet souhaiter qu'il y ait des malheureux pour avoir l'occasion d'accomplir des œuvres de miséricorde. Tu donnes du pain à qui a faim, mais mieux vaudrait que nul n'ait faim et que tu n'aies personne à qui donner. » Il écrit encore, « Supprime les malheureux, les œuvres de miséricorde cesseront. » Bon, alors nous ne parviendrons pas en ce monde à supprimer tous les malheureux, mais il est évident que la voix d'Augustin nous atteint aujourd'hui. Alors maintenant, encore, je braque le projecteur sur quelque chose d'important. Savoir qui je suis. Nous sommes toujours dans la psychologie. Savoir qui je suis. Alors d'abord moralement, après on verra psychiquement, moralement, un seul critère. Prendre Dieu pour témoin. Rentre dans ta conscience. Interroge-la. Rentrez en vous-même, mes frères, et en tout ce que vous faites, voyez que vous avez Dieu pour témoin. Voyez, sous son regard, dans quel esprit vous agissez. Écrit-il, toujours dans le même commentaire de la première épître de Saint Jean. Alors il est vrai, que nous avons oublié de prendre Dieu comme témoin de nos actes et de nos pensées. Et cela nous rend beaucoup plus aveugles et beaucoup moins lucides. Bon, son regard n'est pas celui d'inquisiteur qui faisait si peur à Nietzsche, mais un regard de vérité et d'amour, où l'on peut se contempler comme dans un miroir. Et comme il est vrai que l'on ne peut rien lui cacher, il est évident que nous ne pouvons pas plus tricher avec nous qu'avec lui. Même si la théologie, mais peut-on parler de théologie quand il parle de Dieu, j'en doute. Alors même si la théologie vient souvent chez lui au secours de la psychologie, il faut reconnaître que son conseil de discernement est bon, psychologiquement bon, pas seulement moralement. Et justement, nous allons voir maintenant psychiquement. La vérité est, pour Augustin, que l'on ne peut se connaître qu'en Dieu. Du moins un peu, car la totale connaissance de soi, vous savez, il n'y croyait pas. Il disait que nous n'irons qu'au ciel. Dans les confessions, il a écrit, j'ouvre les guillemets, « Je confesserai donc ce que je sais de moi. Je confesserai aussi ce que j'en ignore, puisque je sais de moi, je ne le sais que par votre lumière, et ce que j'en ignore, je l'ignore jusqu'à ce que mes ténèbres se changent en plein midi devant votre face. » Il parle à Dieu. Bon, nous croyons que nous pouvons tout savoir de nous, soit par la psychanalyse, soit par l'introspection, et pour les croyants, par l'examen de conscience. Mais c'est un leurre, car nous sommes aussi un mystère, et nous le resterons nous serons sur terre. Vous vous souvenez de la jolie phrase de Thérèse Lisieux, qui disait qu'elle se comparait à une enveloppe, une lettre dans une enveloppe, et elle disait « la lettre ne sera lue qu'au ciel ». C'était très beau, hein, très beau. Bon, donc, nous restons un mystère pour nous-mêmes, car il y a toute une part de nous que nous ignorons, et il ne saurait en être autrement ici-bas. Alors, vous me direz, pour avoir oublié cela, les hommes se sont réduits eux-mêmes, en ne reconnaissant que le strict psychisme freudien, au lieu de voir dans l'esprit un océan autre, insondable, divin et magnifique. Bon, vous verrez bien que c'est pas tout à fait vrai. Jung l'a bien montré, qu'un océan magnifique existait dans l'inconscient, et Bergson aussi. Mais les hommes ont quand même ce travers de se réduire eux-mêmes. Donc, la voix d'Augustin est importante aujourd'hui. Elle doit nous apaiser et nous empêcher de nous voir sans cesse comme des problèmes, au lieu de nous voir comme des mystères. Et là, il a raison. La plupart des hommes se voient comme des problèmes, et pas du tout comme des mystères. Spirituellement. Alors, la spiritualité est en lien à la psychologie. Ce qu'actuellement, hélas, nous ignorons trop souvent, un homme, là non plus, ne peut jurer de lui-même par rapport à l'avenir. Il ne se connaît pas assez pour se dire fidèle ou infidèle. Dans l'Épître 130, saint Augustin écrit, j'ouvre les guillemets, « Car nul n'a connu d'autrui aussi intimement qu'il se connaît lui-même. Et cependant, nul ne se connaît suffisamment bien lui-même pour être sûr de la façon dont il se conduira demain. » Je ferme les guillemets. Alors, cette constatation a été faite à la fin de sa vie, et elle est elle aussi le fruit de son expérience. Il a été étonné, bien des fois, par le comportement décevant de certains humains. On ne connaît jamais personne vraiment. Il faut le savoir, et cesser de s'étonner quand un être humain ne correspond pas à ce que l'on pensait. La personne peut nous surprendre, en bien comme en mal. On la voit telle qu'elle est, on ignore ce qu'elle sera demain. Maintenant, nous allons passer au déplacement des tendances. Augustin a écrit, j'ouvre les guillemets, « Nous avons observé souvent que chez certains, quand on parvient à réprimer la sensualité, l'avarice se développe à sa place. » Je ferme les guillemets. Eh bien, nous pouvons remercier un saint d'avoir rejoint, précédé bien sûr, le médecin Freud. Car il faut faire très attention quand on conseille à quelqu'un de changer ou de renoncer à quelque chose, ce qu'actuellement il ne fait plus. Une tendance contrariée se déplace toujours. Augustin parlait de péché, car lui, sensualité et avarice étaient à combattre. Mais il devinait, derrière ses péchés, des forces autres et psychologiques, puisqu'elles avaient le pouvoir de se déplacer, c'est-à-dire de se métamorphoser, vous voyez l'intelligence de saint Augustin. Il était capable d'être un vrai psychologue. Il faut dire qu'il s'était pris comme matière lui-même, hein, il s'était bien analysé. Mais alors, quand on dit à quelqu'un, par exemple, comme on le fait actuellement, « ne fumez plus », et même si la raison est bonne, puisqu'il s'agit de sa santé, on ne sait pas ce que l'on va provoquer. J'ai vu personnellement des personnes angoissées remplacer la cigarette, qui est un calmant, par la névrose ou l'alcool, et au lieu d'aspirer la fumée, se calmer dans la peine avec des antidépresseurs. J'ai eu des personnes trop sensuelles se refuser tout plaisir et prendre dans la haine de la vie et des autres leur revanche. Oui, il a raison de dire qu'il faut faire très attention. Alors maintenant, il a mis l'accent sur notre besoin d'osmose. On peut dire que le besoin d'osmose, Augustin l'avait. Avec Dieu, avec les frères, avec chacun. Et son rêve de la belle amitié, car il avait le culte de l'amitié, en faisait partie. Il citait partout la parabole de la vigne et des sarments. Et partout, il manifesta sa soif d'union profonde avec Dieu. Son idéal communautaire, quand il créa son monastère, vint de là. Parce qu'il avait créé un monastère, j'ai oublié de vous le dire. Il n'y est pas resté longtemps, mais il l'avait créé. Ton âme n'est pas à toi seul, mais elle appartient à tous tes frères, comme à leur tour, leurs âmes sont à toi. Elles sont une seule âme, a-t-il écrit dans une lettre. Il voulait, le disait, l'unité et l'union des âmes et des corps, et des cœurs. Mais qu'est-ce qui peut donner cette union, cette osmose? Il faut un lien d'or pour lier ainsi les cœurs. Eh bien, Augustin a répondu, Dieu. Et voilà alors l'amitié, telle qu'il la désirait et la souhaitait tant, une amitié en Dieu. Déjà, quand il disait monos, étymologie du mot moine, qui signifie un, il ne mettait pas l'accent sur la solitude, mais sur la communion. Tous les moines ne devraient faire qu'un. Il a écrit, heureux celui qui vous aime et son ami en vous. Il s'adressait à Dieu dans les confessions. En d'autres textes, il a écrit des paroles admirables sur cette amitié basée sur l'affection, mais aussi sur une valeur plus haute, Dieu. Lumière pour aujourd'hui, me demanderez-vous, lumière pour aujourd'hui? Je vous réponds, oui, aussi. Car si le lien qui unit les êtres n'est pas de haute valeur, n'est pas relié à une transcendance, qu'il s'agisse de Dieu ou simplement de l'amour humain, alors il ne vaut pas grand-chose. Les couples, voyez-vous, sans ces valeurs supérieures à eux-mêmes, et qui les lient comme un lien d'or, se délient tôt ou tard. Ceux qui l'ont, par exemple, comme des là, c'est un psychologue qui parle, hein. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais ouvert de cabinet, hein. Je fais la psychologie pour le plaisir, simplement pour le plaisir. Bon, ceux qui l'ont par exemple comme dénominateur commun que le sexe, tels les échangistes, eh bien ils se fracassent, ils se perdent assez vite, car on ne construit rien sur une liberté qui ressemble au néant. Ceux qui ont une passion comme le football, et qui se croient unis par un sentiment de ressemblance et de fraternité, peuvent se montrer dans une folie qui n'a rien à voir avec l'amitié. Regardons ce qui se produit parfois dans les matchs de sport, qui devrait être interdit, tant il réveille les instincts grégaires de violence. Oui, une amitié basée sur rien, un amour basé sur rien, ne sont pas souhaitables. En tout cas, ce n'est pas d'amitié, c'est du copinage. Ils ne conduisent en tout cas jamais à l'union et à la communion. Ce sont des copains, des complices, mais on ne peut pas parler d'amitié, d'union, de communion. Le monde actuel cherche l'osmose. Il n'est pas mauvais en soi, le monde actuel. Les âmes ont toujours les mêmes désirs. Ce qui a changé, ce sont les moyens de les assouvir. Que voit-on? Que voit-on? Hein, que voyez-vous? Que voyons-nous? L'éparpillement et la régression. On ne sait plus à qui ou à quoi s'unir pour trouver l'impossible, une communion. L'on reste accroché à tous les fils de la technique. Internet, portable, comme des bébés au sein de leur mère. On est scotchés, mais certes pas unis, ou en relation. Le rapprochement systématique n'est pas l'osmose. Pour qu'il y ait union, communion, il faut la profondeur et un minimum de silence. Car le vrai dialogue nécessite à la fois la parole et le silence. Et nous sommes, nous le savons, aujourd'hui perdus dans le bruit. Mais vraiment perdus, où que vous soyez, on vous l'impose. Alors, saint Augustin a raison de nous demander de réfléchir à ce que nous voulons vraiment, et surtout aux moyens de l'obtenir. Autre lumière, la force de l'exemple. Alors autant l'orgueil est à proscrire, comme un péché et une maladie, autant l'humilité doit avoir ses limites et ne pas nous conduire à l'effacement. Augustin écrit dans son commentaire de la première épître de Saint Jean ces paroles qu'il nous faudrait graver. J'ouvre les guillemets. N'allez pas craindre, quand vous faites bien, qu'un autre vous voit. Crains seulement d'agir pour en tirer gloire, mais qu'un autre te voit pour que Dieu en tire gloire. Si en effet tu te dérobes aux yeux des hommes, tu te dérobes à l'imitation des hommes, tu frustres Dieu de sa gloire. Je ferme les guillemets. Et ce n'est pas la seule fois où il parle de la force de l'exemple, car c'est ainsi que nous devons résumer ses propos. Il faut donc nous souvenir de ces derniers, car actuellement, on ne peut pas dire, vous le constatez autant que moi, que la force de l'exemple soit mise en évidence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les prêtres se taisent sur les plateaux de télévision, pris soudain d'une humilité de mauvaise aloi, car qui, à part eux, a la mission de mettre le Christ en lumière? Qui, à part eux? Ils ne sont pas ainsi un exemple de la grandeur et de la flamme du Christ, d'autre part, et dans un autre registre, on donne aux jeunes des exemples de pacotille, et on s'étonne ensuite qu'ils errent. Un artiste de variété, un saint, un scientifique, enfin, je veux dire, non, je ne voulais pas vous dire ça du tout. Je commence à m'embrouiller. Bon, est-ce qu'on leur offre, en exemple, un grand artiste, un grand scientifique, un saint? Pas du tout. On leur offre, en exemple, un footballeur, une célébrité qui est devenue célèbre uniquement parce qu'elle est passée à la télévision, un acteur, un chanteur de variété, un mannequin, enfin, etc. Je ne veux pas dire que ces êtres humains cités ne soient pas dignes. Pas du tout. Mais on ne saurait offrir aux jeunes exclusivement ces exemples précis. Parce qu'on ne va pas plus loin dans l'offre des choix, dans l'offre des exemples. Et c'est terrible. Alors maintenant, l'amour, pas plus que la crainte, ne suffisent. Non, avant, je veux revenir un petit peu sur l'humilité. Augustin a raison complètement. Souvenez-vous que Thérèse plus tard le dira aussi. Une rose n'a pas à dire qu'elle n'exhale pas un bon parfum. Une rose n'a pas à dire qu'elle n'est pas belle. Parce que ce n'est pas remercier Dieu. Cette humilité est une humilité maladive qui ne rend pas grâce à Dieu pour les dons donnés, qu'il s'agisse de la personne ou de la beauté du monde. Et Thérèse de Lisieux, comme tout ce qu'elle a dit d'ailleurs, comme tout ce qu'elle a dit, a magnifiquement braqué la lumière sur ce problème de l'humilité. Car vous avez des gens humbles qui sont plutôt maso, et ils sont pris d'un complexe d'infériorité. Voilà pourquoi ils sont humbles. Et en fait, ils ont un orgueil camouflé. Bon, donc Augustin a bien fait de parler. Alors maintenant, je continue. L'amour, pas plus que la crainte, ne suffisent. Ni accomplir le bien, ni à réjouir Dieu et les hommes. Pourquoi? Ben parce que l'un et l'autre, amour et crainte, peuvent avoir des origines et des conséquences strictement opposées. Eh bien, vous savez qu'il y a une intuition immense de la part d'un saint devenu psychologue par expérience. Augustin écrit, j'ouvre les guillemets, « L'amour et la crainte conduisent à tout bien. L'amour et la crainte conduisent à tout mal. » Pour faire le bien, vous aimez Dieu et vous craignez Dieu. Pour faire le mal, vous aimez le monde et créez le monde. Et craignez le monde. Je ferme les guillemets. Alors même, si nous ne sommes pas d'accord avec le fait d'aimer le monde pour faire le mal, force est de constater que l'amour ne suffit pas pour accomplir le bien. Car on peut mal aimer et engendrer le mal sans le vouloir. Il en est ainsi d'ailleurs souvent sur le plan personnel, et il en est ainsi aujourd'hui sur le plan politique et social. L'authenticité. L'authenticité, c'est ce que veut en tout saint Augustin, même en religion. Et il écrit. Hélas, ils sont nombreux ceux qui prient sans avoir le sentiment de Dieu. Si la prière n'est pas issue du cœur, si la prière n'est pas liée à la vie, alors elle n'est rien. Elle n'est rien. Psychologiquement, on doit savoir ce que l'on veut. Le plus, Dieu, le monde. Mais il s'agit d'une priorité, la priorité de son âme. Car l'intransigeant Augustin est parfois moins intransigeant que ce que l'on croit. Il a écrit aussi, « Dieu ne t'interdit pas d'aimer ces choses, mais de les aimer jusqu'à y trouver ta béatitude. Alors, comment ici ne pas le rejoindre ? On peut et on doit aimer les choses de ce monde, puisqu'elles ont été créées par Dieu pour notre joie et notre plaisir. Oui, on doit. Mais quand on préfère ce monde à tout, quand on ne lève jamais les yeux vers le ciel, comment alors se dire chrétien ? Oui, il faut savoir que l'on trouve sa béatitude. Béatitude, il faut savoir où l'on trouve sa béatitude. Une béatitude, c'est un mot fort, c'est un sentiment de bonheur intense et presque surnaturel. Ben, on peut pas le trouver n'importe où. Le plaisir, c'est autre chose, la joie, c'est autre chose, mais la béatitude, elle, doit être sur les sommets, nous y conduire. Et Augustin nous demande, où mettez-vous la béatitude ? Dans la réussite terrestre, l'argent, le sexe, le sport, où la mettez-vous ? Eh bien, on peut se demander, avons-nous des joies assez élevées aujourd'hui ? Là, la question, mais là aussi est le problème. Avons-nous de grands désirs, de grandes joies, de grands plaisirs et des buts dignes d'un enfant de Dieu ? Alors attention, hein, là on parle en généralisant, je parle pour le monde. Il y a toujours des personnes sur cette terre qui ont de grands désirs, de grandes joies, de grands plaisirs et des buts dignes d'un enfant de Dieu. Bref, choisir ce qui compte le plus pour soi, se détacher du reste, voilà encore le signe de l'authenticité. Augustin prêchait le détachement. Il ne prêchait pas le renoncement de ce monde. Il avait même écrit un jour à une veuve qu'il ne s'agissait pas de renoncer au plaisir qui l'entourait, mais de ne pas y attacher son cœur. Quant à lui, vous le savez, il savait que la conversion n'empêchait pas la déchirure et le conflit en soi, qu'il resterait jusqu'au bout un homme charnel avec ses désirs et ses tentations. Car renoncer à ces derniers, ce n'était pas ne plus les ressentir. Mais il restait serein. Il restait serein quelque part, malgré son caractère torturé, car il savait aussi que le choix de son cœur avait primé et que Dieu ne regardait que son cœur. Alors, être authentique, c'est aussi être un homme unifié. Et nous le verrons parce que très prochainement, je vous ferai un cours, enfin si je puis me permettre, je veux dire un long discours sur Jung. Être authentique, oui, c'est être un homme unifié. Et Jung parlera de l'homme unifié. C'est ne pas compartimenter sa vie intellectuelle, psychologique, spirituelle. L'homme est un. Et Augustin a voulu être cet homme. Mais cet homme, qui est un, a pour être un l'obligation de tenir compte de ces trois parties de son humanité. Il ne peut en aucun cas renoncer à l'une sans devenir malade ou pécheur. Alors peu importe, nous dit Augustin tout au long de ses lignes flamboyantes, qu'il reste ensuite en lui des zones d'ombre et de perturbation quand l'homme s'est unifié. Peu importe, mais comment parvenir à cette unification réelle ? Eh bien la réponse, là encore, il la donne, en se tournant vers Dieu. Seul Dieu a le pouvoir de nous unifier. Alors qu'un homme ait des défauts, des péchés, des manques, n'a au fond aucune importance. Dieu pourvoira. Et ce que l'homme n'a pu accomplir, Dieu l'accomplira. La grâce intervient toujours quand l'amour de Dieu est là. Vous voyez, il le dit. Alors, on peut comprendre aujourd'hui d'où nous vient notre étrange malaise. Nous ne savons même plus ce que signifie l'unification des trois parties en nous. Et la plupart du temps, c'est la part spirituelle que pour notre malheur et notre mal-être, nous négligeons. Quand nous avons encore la chance de savoir qu'elle existe. Quant à la grâce, si on comprend le sens, qui compte sur elle aujourd'hui. Alors, il est évident que compter exclusivement sur soi dans ce monde à moitié fou ne peut qu'aboutir à la psychose, car tôt ou tard, on se rend compte que les plus grands efforts sont vains. On a été pourtant de bons écoliers. On a cherché l'équilibre jusqu'aux frontières de l'Orient. Zen, bouddhisme, techniques diverses orientales, on a tout essayé. Certaines ont apporté un certain bien-être, mais jamais la sérénité telle que nous la souhaiterions. On a frappé à toutes les portes des psys, dépensé beaucoup d'argent. Oui, vraiment, hein. On a reculé devant rien pour trouver l'impossible équilibre. Même le sport à outrance. Il est vrai que le sport fait du bien, car non seulement il ôte les toxines du corps, mais il enlève également celles du psychisme, les fièvres, les lassitudes. Mais tout cela, je vais vous dire, c'est insuffisant. Nous sommes toujours mal dans notre peau. Plus ou moins, mais toujours. Et voilà qu'un homme, qui fut un saint, mais surtout un génie de la pensée, un homme d'expérience en ce qui concerne les âmes, nous indique aujourd'hui une autre voie, une autre méthode il serait peut-être temps de l'essayer. Maintenant, excusez-moi, je vais assez vite parce que je veux vraiment terminer Augustin aujourd'hui et je me rends compte que je parle un peu trop vite. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. L'inconscient et le rêve. Là encore, Augustin ferait moyen de se mieux connaître. Après Platon, mais avant Freud, Spinoza et Nietzsche, il s'était rendu compte d'une vie autre en lui que celle de la conscience. Une vie nocturne n'ayant rien à voir avec la vie diurne. Une vie sur laquelle il n'avait aucune prise. Aucune prise. Et il est considéré, enfin, je veux dire, il avait reconnu l'existence de deux hommes en lui. Voilà, il avait reconnu l'existence de deux hommes en lui et le pouvoir de l'inconscient. Il les considérait comme des forces contraires qui faisaient de lui un champ de bataille. Lui, il voulait la belle maîtrise de sa conscience. Et il se rendait compte qu'il était impuissant face à cet inconscient qui le dominait la nuit. Il n'avait pas choisi le plaisir. Il en devenait la proie. Tout ce à quoi l'état de veille, il avait renoncé, lui revenait en image la nuit. Autrement dit, le refoulé réapparaissait dans ses rêves, et ses rêves le troublaient parce qu'il lui semblait la réalité. Oui, bien sûr, quand on rêve, on croit toujours qu'on est dans la réalité. Et il écrit dans les Confessions, il s'adresse à Dieu. Vous me commandez assurément de réprimer la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'ambition du siècle. Alors il prend Dieu comme témoin et lui redit qu'il a renoncé à tout, au mariage, au concubinat, à l'ambition, au sexe, bref, à tout. Et il lui avoue, j'ouvre les guillemets, mais elles vivent encore dans ma mémoire, dont j'ai longuement traité les images de ses voluptés. Ses habitudes de jadis les y ont gravées. Elle s'offre à moi sans force à l'état de veille, mais dans le sommeil, elle m'impose non seulement le plaisir, mais le consentement au plaisir et l'illusion de la chose même. Je ferme les guillemets. Alors il renonce au plaisir. Il le retrouve dans le rêve. Il constate par ailleurs que la censure existe aussi parfois. Il s'en étonne. Et c'est vrai que la censure existe aussi parfois dans le rêve. La même censure que celle que nous avons en réalité à l'état de veille. Et Freud, un jour, lui aurait donné la réponse. Mais il la sent. Mais il écrit, pardon, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a écrit, mais d'où vient que souvent, même dans le rêve, nous résistons aussi, que nous nous rappelons nos fermes propos, que nous nous y tenons chastement, que nous refusons notre assentiment à ces sortes de séductions. Eh bien oui, Freud, un jour, lui aurait donné la réponse. Mais la censure était rare, et la plupart du temps, Augustin allait au bout du plaisir. Et dans le rêve, loin d'en être troublé, il en était heureux. Il demande juste à Dieu d'intervenir lui-même, au cas où il refuserait, Dieu, hein, au cas où Dieu refuserait ce genre de rêve. Ces confidences à Dieu qui vont jusqu'au détail. Ce passage où il révèle tout au Dieu intime sont une merveille d'authenticité. Il brise, vraiment, ce que l'on peut penser de son intransigeance. Alors, deux hommes différents sont en nous, l'un raisonne et l'autre se permet tout. Mais nous ne devons jamais être troublés par nos rêves. Jamais. Voilà ce qu'il nous dit. Car que nous passions l'acte dans le rêve, et quoi que nous fassions alors, n'a aucune importance. La preuve, Augustin nous la donne. Nous retrouvons au réveil, écrit-il, la paix de la conscience. Et je vais terminer bientôt. Bientôt. L'inquiétude. Alors nous sommes tous plus ou moins inquiets. On ne peut échapper à ce sentiment qui fait partie de notre nature. Il est dû à notre condition humaine. Nous sommes ici-bas, on l'a vu avec Augustin, comme sur une mer déchaînée, démontée, périlleuse. La traversée n'est pas facile. L'angoisse est là, une angoisse naturelle. Oui, nous sommes embarqués pour un voyage dont la plupart des hommes ignoraient là sa destination. Et la plupart des hommes ne savent pas non plus pourquoi ils voyagent et pourquoi ils sont embarqués. Voilà la première cause de l'inquiétude. La deuxième cause, nous dit saint Augustin, est cette recherche incessante de la joie sur terre, malgré nos angoisses et les épreuves de la vie. Une recherche vaine pour la plupart des hommes, là aussi, parce qu'ils ne cherchent pas la joie qui dure, où on peut la trouver. En tout cas, ils ne la cherchent pas là où on peut la trouver. Augustin, vous vous souvenez, savait de quoi il parlait. La mer mouvementée, il la connaissait, la mer mouvementée. Son caractère torturé en faisait partie. Et les angoisses chez lui, sont allées jusqu'à l'apothéose. Quant à la joie, il la cherchait comme un fou. Et ce fut seulement en trouvant la source qu'il a pu se calmer et cesser sa recherche. Alors, me direz-vous, comment a-t-il pu se sortir de ces deux inquiétudes atroces, de ce tourment, par Dieu, mais grâce à Dieu? Quand on sait que notre navire sur cette terre, sur cette mer mouvementée, se dirige vers le port bienheureux, où le Christ nous attend, on se calme, on s'apaise, on n'a plus peur. Quand on sait que l'inquiétude diminue quand on place sa confiance en Dieu et que la recherche de la vérité et du bonheur est terminée quand on les a trouvés dans un Christ éternel, on se calme, on s'apaise, on n'a plus peur. Désormais, à l'époque des tranquillisants, des somnifères et de l'angoisse généralisée, entendre saint Augustin est une nécessité vitale. C'est bien parce que nous avons oublié Dieu, que nous allons tous si mal et que le monde sombre. Alors, nous devons nous souvenir de saint Augustin, nous disant que sans le Christ, l'homme est au désespoir, sur tous les plans. Alors, nous pouvons, pour conclure, rappeler la phrase merveilleuse de saint Augustin adressée à Jésus. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Et nous demander enfin si telle n'est pas la vérité. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai terminé mon mini-cours, mon discours sur saint Augustin, le grand saint Augustin, le passionné Augustin, et j'espère que vous avez été heureux de le connaître peut-être un peu plus. Je vous salue chaleureusement, comme d'habitude. Au revoir.
Et de Sion, tu es à 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 tu es Thank you.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Isabelle Prêtre, émission préenregistrée le 22 juillet 2020, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 13 septembre de midi à 13h30 et réalisée par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.